When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Bonjour Pierre.
Ouais, bonsoir, bonjour.
Bonsoir, bon, je vais...
Bonsoir, on est en même créneau horaire, donc c'est pas très très loin.
Ah bah oui, on est dans le même créneau, donc ça va. Oui, parce que t'es pas en France, c'est ça, je veux pas tout divulguer, mais...
Je suis en Autriche.
C'est ça, voilà. Bon, je savais pas si je pouvais le dire.
Ah ouais, sans problème.
On va pas mentir à nos auditeurs, on va faire comme dans le civil, on va se tutoyer.
Ouais, sans problème, avec plaisir.
Ce sera plus naturel. Pierre Trochet, donc merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, directeur du développement de la Fédération Française de Football Américain, ancien lineman offensif chez les Danube Dragons en Austrian Football League et président de l'IFAF. C'est ton tout dernier titre, c'est assez récent d'ailleurs.
Eh bien, je vais fêter mes 1 an la semaine prochaine.
Voilà, une petite année. Pierre, première question très très simple. Est-ce que le football américain se porte bien en dehors de la NFL, qui est, nous, notre créneau, nos auditeurs voient beaucoup la NFL. En dehors de ça, est-ce que le foot US se porte bien?
Alors, le foot US se porte plutôt bien. On vient de franchir la barre des 20 millions de pratiquants au niveau mondial. Alors après, bien entendu, chaque zone et chaque pays aura ses propres spécificités. J'inclus les pratiquants de football américain, comme vous avez l'habitude de voir à la télé, mais aussi de flag football, qui est une version plus allégée, avec moins de joueurs, 5 contre 5, petit terrain, sans casque et sans épaulière, qui a le vent en poupe, une vraie hype autour de cette activité-là depuis maintenant quelques années. Donc le foot US, en tout cas dans la participation, se porte plutôt bien. On fait partie des sports avec globalement au niveau mondial une des croissances les plus importantes. Et puis au niveau du business, on va regarder vers la NFL ou d'autres initiatives en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, en Asie, ainsi de suite. En tout cas, les opportunités ne manquent pas. Donc tout ça est très plaisant pour les fans de la première heure que nous sommes.
Alors il y a déjà plein de questions sur le chat et évidemment on va être obligé de te parler.
Alors je vois pas le chat donc je te laisserai.
Non mais t'inquiète pas, je vais relayer tout ça. Okay. Je vais relayer tout ça, mais on va y venir parce qu'il y a évidemment des questions qui reviennent sur déjà plein de petites choses que t'as évoquées. Je voulais juste dire un mot sur ce qui s'est passé forcément ces deux dernières années. On a quand même l'impression qu'avec le Covid, il y a eu un petit coup de frein. Le championnat de France a un peu souffert. L'équipe de France a pu jouer beaucoup moins souvent. S'en remet. Ça y est, on commence à passer au-dessus et à revenir à un rythme de croisière.
En tout cas, la dernière fois que j'ai pu regarder un petit peu le chiffre et assister à certains séminaires, notamment avec les équipes de D1, le Covid a été très dur en France, puisque le foot américain ne faisant pas partie des codifications des sports qui ont été autorisés à continuer à s'entraîner malgré des statuts de haut niveau. Maintenant, il y a un vrai changement dans les modes de pratique, c'est-à-dire que encore une fois le foot américain comme on l'entend, casque épaulière, demande beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, beaucoup de monde, beaucoup de joueurs et ainsi de suite. Donc on a un shift en tout cas au niveau des générations vers des pratiques qui sont plus libres, plus loisirs, un peu comme le basket 3-3 et notamment le flag est une belle réponse. Donc on n'est pas encore de retour en tout cas sur le foot US sur le rythme de croisière. Mais au niveau général, si on prend vraiment le chiffre brut, la Fédération française a repassé la barre des 25 000 pratiquants, ce qui n'était pas arrivé depuis 2018, avec une baisse de 40% pendant les 2 années Covid. Donc les chiffres sont là. Maintenant, Il faut transformer ces chiffres avec des pratiques de compétition pour pouvoir jouer, voilà, jouer au foot américain dans les régions et remplir toutes les divisions régionales ou nationales du championnat. Donc, on est en phase de retour, mais le Covid a été très dur, comme beaucoup de sports et comme partout en France, hein, c'est pas une exception.
Je reviens sur le flag parce que c'est un mot qui est déjà revenu plusieurs fois. Officiellement, on est candidat, enfin le flag est candidat pour les Jeux Olympiques de 2028. Les Jeux,
Tout à fait.
c'est pourquoi en fait? C'est pour être une porte d'entrée pour autre chose?
Bah, déjà, on est candidat notamment à notre entrée sur les Jeux de Los Angeles en 2028, mais aussi pour après, hein. On est sur une opportunité d'inclure sur le long terme une activité football américain, flag football sur le programme olympique. Donc ça, c'est une grande nouvelle. On est en tout cas en démonstration de nos capacités depuis plusieurs mois maintenant avec un partenariat. J'irais même presque une fusion en tout cas d'objectifs avec la NFL, ce qui arrivait pas souvent dans l'histoire, mais là on est à fond dedans en tout cas. Donc il y a une candidature. Alors il y a une porte d'entrée bien entendu sur le fait de pouvoir transformer des millions de fans à travers le monde en joueurs potentiellement. C'est bien entendu, on est sur un acte de pratique, hein, de pouvoir mettre des baskets. On pourrait faire une team flag TDA avec une ceinture de flag, une paire de baskets, 5-6 potes et c'est parti. On peut jouer également les femmes en team place en équipe féminine, mais aussi en activité co-ed, donc en activité mixte. Donc on est vraiment sur la démocratisation complète du foot américain. C'est-à-dire qu'on a souvent quand on veut essayer de jouer, alors je sais que nombreux de tes followers sont des fans et pas forcément tous des pratiquants. C'est vrai que ça peut être compliqué. Il faut acheter un casque, une épaulière, il faut trouver un club, faut voilà. Il y a quand même quelques freins à l'entrée qui disparaissent complètement avec le flag football. Et donc, ben, dans ton jardin ou dans le gymnase à côté de chez toi ou dans un tournoi, tu peux avoir le one and catch, la passe de touchdown, le spin move. Voilà, t'as toute l'ambiance, t'as tout le goût, mais sans les freins. Donc, bien entendu, une porte d'entrée importante.
Oui, et puis on va pas se mentir, hein, tout le monde n'aime pas forcément le contact, donc ça peut être une manière d'avoir les sensations de capter un ballon ou de lancer un ballon sans le contact, qui est pas forcément le truc de tout le monde, hein.
Exactement.
Je posais la question en fait sur la porte d'entrée sur quelque chose. Je dis peut-être une bêtise, mais j'avais cru comprendre que être un sport olympique, ça pouvait aider à rentrer notamment dans les collèges, lycées, au niveau de l'éducation nationale, etc. Non?
Alors après, chaque pays va avoir sa propre organisation, hein. C'est toujours très difficile de connaître l'ensemble des modèles mondiaux, mais notamment si on parle de la France, le fait de déjà IFAF étant donc la International Federation of American Football, parce que t'as oublié le A et le F
Ah,
au
mais
début de
voilà, American
l'édition.
football, je suis idiot.
Mais on est dans le principe pour être reconnu comme membre permanent du CIO. Voilà, on était reconnu seulement comme membre temporaire depuis 2013, donc c'est très long. Donc il y a un gros travail de gouvernance à faire à ce niveau-là. Donc déjà, avant même de rentrer comme sport olympique, tu pourras éventuellement prétendre dans le futur à rentrer comme fédération déjà olympique. Donc tous les sports du monde ne sont pas tous reconnus par le CIO. Donc déjà, tu joues dans la cour des grands en termes d'organisation. Et puis le deuxième volet, bien entendu, c'est de devenir un sport olympique. En tout cas, on est candidat pour ça. Et de fait, il y a plein de choses qui peuvent changer, bien entendu. Alors en France, on parle de l'inclusion du sport dans les écoles. Dans d'autres pays, je pense notamment à des pays asiatiques, ben, on ne peut pas être membre de son comité national olympique si la fédération n'est pas reconnue par le CIO. Donc pour l'ensemble des fédérations, ça donne une autre dimension. Donc bien entendu, c'est un coup de projecteur, c'est un boost qui est inestimable. C'est très important pour nous de remplir ces deux objectifs. Et vraisemblablement, on devrait être en capacité, en tout cas, d'être de candidat sérieux et d'avoir une réponse courant de l'année 2023.
Là, quand on t'entend, on sent que tu t'es éloigné des terrains, ça a l'air très politique quand même, hein. Il faut rentrer dans tel comité pour devenir un sport olympique, pour avoir sa fédération, pour avoir son... etc.
C'est autre
etc.
chose.
Bon,
C'est un autre, c'est autre chose.
tu parlais de grands, de taquiner un petit peu les plus gros. Évidemment, il y a la NFL qui est ce sort de mastodonte qui est à côté de vous en permanence. Est-ce que l'IFAF travaille avec la NFL, par exemple, quand elle vient à Londres ou à Munich? Est-ce que vous avez des liens sur ces matchs-là?
Ah oui, on a des liens. Alors, bien entendu, on n'intervient pas sur tout ce qui va toucher l'aspect économique, hein, puisque c'est une initiative de la National Football League. Maintenant, si certains des viewers ce soir étaient à Londres, ils ont pu voir du flag football à la mi-temps, notamment avec l'équipe de Grande-Bretagne et l'équipe d'Allemagne à Munich. On a tourné un film sur l'équipe du Mexique, qui est championne du monde féminine, sur le match à l'Aztec Stadium. On participe aussi notamment sur des activités NFL Flag, sur des activités, eux participent sur des activités Flag IFAF, notamment sur notre collaboration la plus concrète, c'est les World Games, donc les Jeux mondiaux qui sont un peu l'antichambre des Jeux olympiques qui ont eu lieu à Birmingham, Alabama l'année dernière. Donc voilà, la NFL participe bien entendu au financement, à l'animation, à l'activation du stade. Donc c'est plus qu'un partenaire à côté, on est vraiment sur une collaboration hyper active. Et en toute honnêteté, en toute transparence, de mon expérience à moi, de façon très humble, c'est la première fois qu'on a vraiment la NFL aussi active, participative, à l'écoute aussi également de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment super intéressant.
Je crois que j'ai même vu des photos de toi avec Roger Goodell, si je dis pas de bêtises.
Oui, plusieurs fois, oui, j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer le commissionnaire Goodell. Alors bon, voilà, discuter un peu du projet olympique, de leur support, qu'il soit financier, logistique, humain. On travaille aussi énormément, notamment, enfin, je pense que tout le monde, en tout cas, peut-être une partie des gens l'ont vu sur un groupe qui s'appelle Vision 28, que je co-préside avec Troy Vincent, qui est le directeur des opérations football. On travaille aussi énormément avec Peter O'Reilly, qui est sur le club business, notamment en charge du Super Bowl, du Pro Bowl et autres. Voilà, Brett Gosper sur la partie européenne, qui est également quelqu'un qui a une expérience, lui, olympique dans le monde du rugby, donc qui apporte une vision complètement internationale. Donc, encore une fois, j'insiste vraiment, c'est la première fois, en tout cas de mon expérience, qu'on a vraiment cet investissement de la part de la National Football League dans le projet international de gouvernance de la Fédération internationale. Donc, effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, il y a un peu moins de foot, il y a un peu moins de terrain, et on est à fond dans des problématiques de gouvernance, voilà, les règles du jeu. La normalisation des équipements, l'antidopage, la bonne gouvernance en général d'une association,
Donc
qu'il n'y ait pas de malversation et autres.
pas de petite partie de flag avec Roger de temps en temps pour entre les réunions, hop, vous vous dégourdissez pas les jambes dans un jardin, quoi, c'est
Non, non, non. Alors, il participe beaucoup avec nos athlètes. On l'a vu jouer notamment avec Nausicaa del Orto d'Italie ou avec Diana Flores du Mexique. Voilà, moi, étant un ancien joueur de ligne offensive, le flag football pour moi est une activité vraiment de loisir et dans laquelle je m'occupe des petits. J'habite en Autriche, donc je m'occupe d'une équipe de petits. Voilà, ça me suffit. J'ai pas de prétention à vouloir jouer ou performer. C'est fini tout ça.
Bon alors, toi qui as travaillé un peu dans la com, tu dois voir où je t'emmène depuis tout à l'heure. Je te fais dire que tu as vu Roger Goodell, tu discutes avec Troy Vincent, la NFL est dans le coin, etc. Et donc tu sais que je suis obligé de te demander, vu que la NFL a dit la France est dans le radar, la France et l'Espagne hein, en l'occurrence, vu que tu es à la fois à la FFFA et à l'IFAF, est-ce qu'on va avoir bientôt un match en France? Est-ce que tu as des infos sur un match en France? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un match en France prochainement?
Alors, on ne peut pas savoir si on va s'attendre de façon sûre et certaine à un match en France, mais effectivement, comme Brett Gosper l'a rappelé, la France et l'Espagne sont des marchés très intéressants. On a en plus il y a une vraie dynamique en France, notamment avec la Coupe du Monde de rugby, avec les Jeux Olympiques de Paris. IFAF est une des rares fédérations internationales de sport qui a son siège social à Paris. On a un leadership français, donc on a forcément une place un petit peu particulière. Maintenant, on parle de la France. Ça peut être d'autres lieux, hein. Ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça peut être Paris, ça peut être. Je connais pas tous les grands stades de foot, mais Lille, pourquoi pas. Enfin, la France est un marché. Ça c'est certain. Voilà, les actions démarrent, en tout cas les recherches, les études, les stades, les partenaires. On a vu une belle dynamique, notamment sur Munich, hein. J'ai eu la chance d'assister au match. C'était assez incroyable en termes de fans, en termes de participation, en termes d'ambiance, en termes, voilà, c'est assez fou. Je pense que il y a aussi un lien historique, notamment où la France a fait une petite pause, notamment avec l'OTAN, et qui fait que l'Allemagne est un peu en avance au niveau des fans. Voilà, dans les années 80. Maintenant, on a rattrapé ce retard, mais on sait que voilà, potentiellement 2025, 26, 27 sont des années qui pourraient, en tout cas, voir arriver un match professionnel de National Football League en France. Pourquoi pas? En tout cas, il faut pas dire non.
Ah
Voilà.
bah 2025, 26, 27, c'est déjà demain en un sens, hein. C'est dans 3 ans, 4 ans, on n'aurait pas imaginé ça il y a encore quelques années, si vite, hein.
Ouais, c'est une option. Et je te le dis en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai pas d'informations précises sur le domaine, hein. Je cherche pas à vouloir cacher ou faire la langue de bois. Voilà, c'est en cours d'étude, c'est une réalité, le process va démarrer. Maintenant, il y a tellement de comment dirais-je, de paramètres différents, hein. Alors oui, les stades, la fan zone, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la partie, bien entendu, la partie télé, voilà, sur des médias comme TD Actu, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, le c'est à l'horizon, c'est un objectif.
Et
ça,
alors,
c'est une certitude.
Et alors, quand dans l'interview, il disait la France, c'est un marché un peu particulier, est-ce qu'il voulait dire que c'est parce qu'on parle pas très bien anglais qu'ils ont du mal à arriver? Parce que les Allemands parlent très bien anglais, donc on se disait, ils font Angleterre, Allemagne. Bon, voilà, ils s'embêtent pas trop. Quand ils disent c'est un marché particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des trucs particuliers au niveau des médias, plus sérieusement, je sais pas, au niveau du marché télé qui est différent, ou alors c'est vraiment la barrière de la langue qui est, faut le dire, hein, c'est aussi pas
bon,
facile
ça fait
d'organiser
partie.
Quelque chose.
Je pense que ça fait clairement partie des freins. L'arrivée en Angleterre a été finalement naturelle de par plein d'avantages. De revenus, de langue et ainsi de suite. L'arrivée en Allemagne également, elle s'est fait naturellement parce qu'on a une fanbase, parce que la NFL Europe à l'époque, c'était quand même principalement un cœur allemand sur les dernières années. Après, t'as bien évidemment une partie médiatique, hein, notamment sur les chiffres des retransmissions télé. On est en progression permanente, notamment grâce à deux médias français qui font les rediffusions, hein, gratuit et payant. Voilà, grâce à, encore une fois, à des magazines comme le tien et à toute ta communauté. Donc les chiffres progressent, les chiffres sont intéressants. Il y a aussi en France une organisation du sport qui est quand même assez spécifique, notamment parce qu'on a voilà, on a un ministère, on a le mouvement des sports, on a quand même des choses très très carrées qu'on a hérité du début du XXe siècle.
On en revient à la politique, il faut
existe.
Qu'ils discutent avec tout le monde, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait en France, enfin c'est à la fois un avantage et des fois un inconvénient. Tu fais pas ce que tu veux dans le mouvement sportif, en fait. Il y a des règles, il y a un code du sport, voilà, il y a un ministère de tutelle, donc il faut pouvoir jouer avec tout ça. Et puis l'expérience de la NFL Europe n'avait pas retenu Paris comme étant une destination privilégiée, donc bah finalement quand tu prends à l'échelle du sport mondial et à l'échelle de la NFL, la partie NFL Europe c'est pas si loin que ça non plus. Donc ça reste quand même dans un peu voilà dans les mémoires. Donc il y a des freins, c'est certain, c'est certain.
En parlant de Paris, il y a justement l'European Football League qui vient de se lancer avec une équipe à Paris.
Ouais.
Est-ce que ça c'est un lien avec l'IFAF? Est-ce que c'est une ligue qui fait complètement sa vie? Vous avez un œil dessus? Comment ça se passe?
Non, c'est une initiative privée qui a démarré en Angleterre et qui s'est étendue à plusieurs belles villes et belles équipes d'Europe. Ils ont pu retrouver un deal pour effectivement exploiter des marques de l'ancienne NFL Europe, on en parlait juste avant. C'est une ligue avec laquelle nous avons un contact, nous avons des discussions. Pareil, on va pas faire la langue de bois. Patrick Ezoumé est passé par la FFFA. On s'est croisé plusieurs fois en équipe de France, donc on se connaît bien. Et puis notamment voilà en Europe aussi, donc on se connaît, on discute. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de rapprochement officiel entre l'IFAF, qui est un peu la FIFA du foot américain, alors avec énormément de moyens en moins,
oui,
bien sûr, mais
ça a pas une très bonne image en ce moment. C'est pas une comparaison.
Ouais. Alors, je vais parler de la FIBA. Alors, on va dire FIBA.
Voilà, la FIBA, c'est bien.
Voilà, on va dire FIBA parce que le basket fonctionne bien aussi. Donc non, on a un lien. On a des discussions. Maintenant, on n'a pas de lien. Il y a encore énormément de critères, en tout cas, voilà, qui sont en construction. Hein. Faut pas oublier que c'est une initiative qui a 2 ans. Ils sont dans leur troisième saison. Donc, il faut aussi se laisser le temps de pouvoir grandir, puis de pouvoir cocher toutes les cases. Hein. Nous, on a des règles au niveau des transferts internationaux. On a des fenêtres internationales pour les matchs internationaux des équipes d'Allemagne, de France, d'Italie, de Finlande, et ainsi de suite. On est signataire du code de l'Agence mondiale antidopage aussi. Donc, voilà, ça prend un petit peu de discussion, mais en tout cas il y a pas de il y a une volonté commune d'essayer de se parler, de se comprendre. Donc on ne peut que observer l'initiative parisienne qui est elle aussi dans les mains de personnes qu'on connaît très bien, qui je le sais on le fout à cœur en tant que fan. Voilà, maintenant le challenge encore une fois de réussir en France dans ce milieu-là, il est important, et bien entendu je leur souhaite le meilleur, donc on regardera.
Alors, je vais te dire sur le chat, depuis qu'on a parlé de la politique et des gens qui doivent, de la NFL qui
doivent. Tout le monde s'est
Non, 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 mais justement, j'allais dire, depuis qu'on parle de la politique et des gens de la NFL qui doivent traiter avec l'administration française, sur le chat, les gens s'imaginent les 12 travaux d'Astérix et le laisser-passer
Ah, c'est assez marrant.
A38.
Ouais,
Voilà.
c'est assez marrant,
On s'imagine Roger Goodell en train de demander des laisser-passer au centre des impôts du coin, visiblement. Pour revenir un petit peu sur les grandes questions, on a parlé du fameux match en France, qui est un peu quand même une des arlésiennes. Le site existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et c'est vrai qu'on en parle tout le temps. L'autre question qui revient souvent chez nos lecteurs, c'est à quand un joueur français en NFL? Alors, on peut élargir parce que tu es à l'IFAF, c'est même à quand plus d'internationaux presque. Il y a des ligues américaines qui ont vraiment eu une explosion du nombre de joueurs internationaux.
Ouais.
Quel levier peut jouer là-dessus? Est-ce qu'on peut. J'ai l'impression qu'on peut toujours pas se passer en fait d'un passage dans une fac US, quoi.
Ouais, c'est très difficile. Il y a eu, enfin, la dernière, le dernier en date qui est sorti d'un tour de draft et qui s'est fait couper, c'est Maurice Bringer. Donc on est encore sur un extraterrestre parmi d'autres. Il faut quand même vraiment se rendre compte, et là pour le coup, vu de l'intérieur, le gap entre le football semi-professionnel européen ou amateur européen, la plupart du temps quand même, hein, faut rester un peu, voilà, enfin, faut rester qui nous sommes, et la partie professionnelle NFL, le gap est énorme. Hein, faut quand même, on a souvent tendance effectivement à avoir des joueurs qui ont des très très belles performances en collège ou en Europe. Il y a encore un gap. Hein, pour le coup, chose que je me rends compte aussi réellement pour être au plus près de l'action, voilà, la préparation, le passage des joueurs, effectivement, est, voilà, très important. Aujourd'hui, il y a 206 joueurs en NFL sur roster actif sous contrat qui ont la capacité de prétendre à jouer avec un passeport international. Effectivement, alors, ça fait de la NFL la dernière grande ligue dans le sport américain à ouvrir ses frontières. Le gap est énorme. On est sur une ligue qui est quand même plutôt conservateur dans son type de coaching. Maintenant, on a de plus en plus de talents quand même, malgré tout, qui sont en NCAA. Je crois que de mémoire, on doit être pas loin de 300-400 athlètes actuellement qui doivent jouer sur les deux premières divisions NCAA et qui sont de plus en plus globaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup, on avait bien entendu des Allemands, voilà, des Scandinaves et ainsi de suite. Là, on va retrouver beaucoup de joueurs africains, de plus en plus. On a notamment une académie au Nigeria qui est roulée par Ozzy, qui travaille pour NFL Londres, et qui fait aussi Sky aussi sur les commentaires, qui fournit des athlètes hors normes. Hein. Là, au Combine à Londres, j'ai vu passer des athlètes d'une qualité diamant brut, quoi, vraiment assez exceptionnel, notamment du Nigeria, du Ghana. De la Côte d'Ivoire, donc on a vraiment un vivier intéressant ici. Moins d'Européens cette année sur le NFL Pathway. On a vu des Australiens, on a vu des gens de l'Océanie. Donc le Pathway est intéressant parce qu'on est vraiment sur une démarche de démocratisation. On va chercher des talents finalement dans le monde entier. Maintenant, ceux qui arrivent vraiment à percer et qui deviennent professionnels, voilà, 3-4 saisons, sont majoritairement des joueurs de college football. Donc ça reste encore difficile, en tout cas, de passer sans cette validation en amont de jouer dans une grande fac, si possible, en tout cas d'avoir des reps dans une fac internationale. Une difficulté aussi, c'est que souvent les joueurs internationaux sont utilisés voilà, sur des special teams, plutôt des big guys. On a très très peu de joueurs des skills. Alors on va parler d'Amras Amron en ce moment, qui lui est allemand, qui est un ambassadeur IFAF NFL pour le flag football et qui fait plutôt une super saison, voilà. Mais malgré tout, il a été formé aux États-Unis, il n'est pas issu de la formation européenne. Donc on a encore un gap. Maintenant, c'est l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir peut-être 1000 ou 2000 joueurs internationaux dans les programmes NCAA, et puis on aura bientôt des joueurs internationaux. Maintenant, tu connais très très bien le basket. Avant d'arriver à avoir les trois derniers MVP qui arrivent d'Europe ou qui arrivent du monde entier, je ne sais pas si on le verra. En tout cas, on aura plus de cheveux blancs, on aura un peu plus d'âge, c'est certain. Mais on s'en rapproche, c'est certain. En tout cas, le point extrêmement positif, c'est si on prend 2022 et 2010, il n'y a jamais autant d'opportunités
Ah oui,
pour les joueurs.
T'es sûr.
Qu'ils soient européens, africains, américains, enfin sud-américains ou autres, il n'y a jamais autant d'opportunités. High school, NCAA, junior college, ligue pro canadienne, initiative européenne, X League au Japon. Ça pour le coup, c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait la NFL Europe, point barre, quoi.
Non, c'est sûr.
Donc ça c'est un vrai progrès.
C'est sûr, mais c'est vrai qu'on parle de beaucoup plus loin. Nionibal fait remarquer sur le chat qui dit que le basket est très populaire et joué partout. Et évidemment, le basket, c'est un sport qui est culturel dans les pays de l'Est et il y a une très grosse culture dans plein d'endroits. Donc on part de beaucoup plus loin pour le football américain. Je rebondis un petit peu sur l'histoire de Gab dont tu parlais, mais vraiment juste pour plaisanter un petit peu. Mais toi qui as été lineman en ligue autrichienne, du coup, une opposition avec Aaron Donald, par exemple,
Ah, je me fais mâcher.
T'aurais appréhendé un petit peu?
Ah, je me fais mâcher. Il me met dans sa poche, il m'emmène avec lui en vacances. Non, mais on a dit pas de langue de bois. Donc, non, je me fais mâcher.
Après,
c'est incroyable.
Lui, il fait ça à plein temps quasiment depuis le début de sa vie. Donc,
Non, mais il y a une différence physique, bien entendu, mais disons que sur la partie naturelle, on est né, les Américains, you can't teach size, quoi. Hein, il y a forcément des choses qui sont innées, mais la préparation physique, la préparation à la performance, la préparation au foot, il y a vraiment un gap. Et c'est vrai que on a plus d'opportunités, donc on a des joueurs qui globalement vont pouvoir aller jouer et plus ou moins gagner leur vie, hein, on est encore au balbutiement, mais de là à être professionnel niveau NFL, voilà, il y a encore un gap. On a l'impression que ce gap il est là depuis 10 ans, donc à un moment donné le nombre fera l'explosion. Et puis tu parlais du basket, juste pour faire un rapport intéressant, mais si on se met un peu dans l'imaginaire, on est un peu dans le storytelling, mais on a Barcelone 92, la NBA explose, Jordan à Barcelone, c'est l'internationalisation du basket, et on a Tony Kukoc qui crève l'écran, on a derrière la génération Parker, Nowitzki, Gasol et ainsi de suite. Bon, Los Angeles 2028. Donc on sera aussi dans cette dynamique-là. Donc peut-être que, d'ailleurs, nos collègues à la NFL ont déjà annoncé que les joueurs seraient disponibles.
Ah oui, ce serait bien ça.
Alors y a bien entendu ensuite, il y a des questions personnelles avec le PA, les assurances, ainsi de suite. Mais en tout cas, la Ligue ne s'opposera pas à la participation des joueurs. Donc ça veut dire que, voilà, potentiellement, 2028, on ne sera pas encore trop loin. On aura... Herbert qui sera pas trop vieux, on aura
j'allais dire il y aura Tom Brady encore,
hein. Ouais,
il sera toujours là. Ça fait une sacrée promo si t'envoies Tom Brady aux Jeux Olympiques au flag, hein.
Il nous a fait un message très sympa sur la promotion de la campagne de flag. Il y a Peyton Manning aussi qui a fait dans son studio avec son frère, qu'on fait une petite blague en disant même nous on sortirait notre retraite pour 2028.
Sympa.
Voilà, c'était très sympa en tout cas de participer activement à cette campagne. Mais voilà, en tout cas, dès le départ, il y a une collaboration entre la Fédé internationale et la Ligue professionnelle pour dire pourquoi pas. En tout cas, il y a pas d'arrêt catégorique, et il y a une volonté de voir participer les meilleurs joueurs du monde au flag football. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez tous suivi l'annonce, mais le week-end avant le Super Bowl, pour le Pro Bowl, les meilleurs athlètes du monde joueront pour le Pro Bowl Game, qui est un match de flag football.
C'est vrai que ça va être une sacrée promo, parce que bon, le Pro Bowl a toujours été un peu contesté. Finalement, ça fait une sacrée promo pour le flag. C'est le flag qui y gagne, en fait, à ce changement de format du Pro Bowl.
C'est le flag qui gagne, et puis même, je pense que le Pro Bowl gagne aussi, parce que le match, il était quand même,
oui,
il était quand même
sur,
camouflé un peu. Là, on va assumer le côté... performance, fun, habilité individuelle d'un All-Star Game. Donc, on n'est plus en train de vouloir cacher un côté un peu fun, un peu entertainment derrière un match qui n'était pas forcément très performant dans les dernières années. On l'assume. Flag football, festival. Alors là, ils vont jouer à 7 contre 7 parce qu'on est sur un format qui sera en mutation vers le 5-5 parce qu'il a fallu négocier avec le syndicat des joueurs. Mais d'ailleurs, on aura donc Vanita Crouch qui est la quarterback. Une des légendes de ce sport aux États-Unis qui coachera l'offense de mémoire de la conférence AFC, et puis on aura Diana Flores qui coachera l'offense de la division NFC. Donc on aura une intégration internationale, et puis on retrouvera des arbitres IFAP aussi sur le terrain. Donc encore une nouvelle preuve de notre collaboration.
Top. Je reviens juste à l'arrivée éventuelle d'un jour d'un Français dans la Ligue, etc. Alors, il y en a déjà eu, hein, on le rappelle évidemment. J'ai un, J'ai un trou
On a eu Marc-Angelo Souma, on a eu Sébastien Séjean, on a eu Anthony Mangou, on a eu Anthony Dablé pendant quelques temps, on en a eu plein.
Et j'ai un trou sur le joueur qui était chez les Patriots dans les années 90.
Richard Tardis.
Richard Tardis, merci beaucoup. Je suis désolé, je ne l'avais pas sur ma fiche, je pensais que je m'en souviendrais. Est-ce que le prochain, c'est Jeffrey Mba? Est-ce que c'est la prochaine grande chance? Il est à Auburn cette année, qui a une très grosse fac.
C'est fort. Non, c'est fort, c'est fort. Jeffrey en tout cas défie l'ensemble de l'opposition qui lui est proposée. Voilà, maintenant je pense que pour le moment l'important c'est de rester dominant et d'avoir un impact à Auburn qui est une fac qui compte. Il y a encore une saison à faire, donc peut-être que se projeter en tout cas peut-être serait contre-productif pour lui, parce que l'important c'est d'être dominant maintenant, de pouvoir passer son grade et ainsi de suite. Maintenant, il est quasiment sûr et certain qu'on verra Jeffrey. Alors, on lui souhaite bien entendu une draft. Ça, c'est la meilleure des options, j'ai envie de dire, pour lui. Alors, on peut penser à Björn Werner, qui était finalement l'Européen le plus haut drafté par les Colts sur un premier tour. Ce serait exceptionnel. On va dire que dans le pire des scénarios, qui est pourtant déjà un aboutissement énorme, mais on lui souhaite une place sur le pathway, de pouvoir faire ses preuves et de pouvoir gagner ce spot. Hein. On rappelle que les joueurs qui passent sur le NFL International Pathway obtiennent un joueur sous contrat supplémentaire sans les contraintes des rosters. Donc ça fait un joueur en plus à prendre sous contrat. Donc c'est le pire qu'on lui souhaite, mais le meilleur, bien entendu, c'est de battre le record de Björn Werner et d'aller chercher... peut-être un top 10 au premier tour.
Bon, on lui souhaite une carrière un peu meilleure que Björn Werner quand même, parce que de mémoire, ça n'avait pas duré hyper, hyper longtemps.
Mais... Bah, il avait été très bon chez les Colts. Il avait été très bon chez les Colts. Après, c'était un peu plus compliqué. Voilà, les blessures, ainsi de suite. Mais la carrière d'un joueur NFL, c'est 4 ans en moyenne. Donc, 3 ans, 4 ans en moyenne. Donc,
non, mais c'est vrai que pour le coup, Jeffrey Mba, il y a le cursus universitaire. Donc, il est dans le cadre universitaire américain. Il a
et puis, du coup, avant
Comment Oui, junior college avant.
Et du coup, avant. Ouais, donc il était là plus que sur ses années collège. Grosse fac, voilà, il joue, il est dans un système qui convient bien, plutôt dominant sur les oppositions 1 contre 1, des capacités physiques naturelles hors normes. Non, bien entendu. En tout cas, il a clairement ses chances. Je pense que on pense aussi à Junior Ao qui va rentrer dans sa dernière année dans pas longtemps, qui est peut-être du coup qui est un peu short peut-être parce que les dernières saisons il y a eu des changements dans le staff de SMU, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Mais en fait on est impatient parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas loin de toucher le truc du doigt depuis quelques années, parce que Anthony Mangou c'est pas passé loin, Anthony Dablé non plus, enfin à chaque fois t'as parlé, alors c'est pas il y a une génération, mais c'est il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus loin, mais même Marc-Angelo Souma, Samir Amoudi, etc., qui avait tâté des camps d'entraînement, Philippe Gardan, on n'était pas loin. Là, ça s'est encore approché un petit peu. J'oublie Sébastien Séjean aussi, d'ailleurs, à la même époque. Ça s'est rapproché encore un tout petit peu. Anthony Mangou, on y était presque. Anthony Dablé aussi, c'était vraiment juste. Donc là, on espère quand même que Jeffrey Mba, on va passer cette étape-là, mais...
Le nombre fera la conséquence aussi.
C'est vrai.
En tout cas, il a naturellement toutes les capacités. Voilà, c'est un gros bosseur, hein, parce que il a quand même prouvé plein de choses aux États-Unis, malgré la difficulté de s'imposer comme étant un joueur étranger, hein, sur une position en D-line qui est pas difficile. Il y a beaucoup d'attentes, on prend beaucoup de coups, c'est une position besogneuse, mais il a su en tout cas relever pour l'instant tous ses défis. Donc il lui manque encore une année vraiment, titulaire régulier, hyper dominant. Les bons grades scolaires qui vont bien, le diplôme en poche, et puis let's go pour la draft. Donc non, bien sûr. Après, en France, on voit une vraie progression de plus en plus, je trouve, notamment sur les athlètes de haut niveau, sur la façon de s'entraîner, sur la façon de performer. On a eu un petit creux entre la fin de la NFL Europe et le retour d'une nouvelle génération qui s'entraîne pour performer, qui s'entraîne pour dire tiens, moi je vais kiffer ma vie et je vais partir jouer en Europe 3 ans, 4 ans, je vais aller aux États-Unis, je vais passer mes diplômes. En tout cas, le plafond de verre, il est brisé. Le plafond de verre sur non, t'es français, t'y arriveras pas, ça c'est cassé, ça n'existe plus. Je pense que les gens qui parlent encore de ça ne sont pas forcément très au fait des actualités, mais le plafond de verre est cassé. Maintenant, on n'a pas encore réussi à choper le bon cordon pour monter, mais mais c'est déjà une super étape.
Tu parlais de Tony Parker. Si on regarde l'actualité, en fait, on a peut-être l'impression qu'on est arrivé maintenant sur une génération de sportifs français en global, en fait, parce que l'équipe de France de foot maintenant a plus peur de gagner, l'équipe de France de basket a plus peur de gagner. Et c'est vrai que même ça doit étendre un peu le champ des possibles pour tous les sportifs français, en fait, qui doivent avoir moins peur qu'avant, non?
Oui, je pense que t'as un changement de mentalité, ça c'est certain. Maintenant, je mettrais quand même un bémol, malheureusement, c'est qu'on a de plus en plus d'athlètes, et je parle du foot US, mais notamment, enfin, peut-être, en tout cas, t'as plus d'infos sur moi sur les autres sports, moi je suis juste un fan, mais on a cassé un plafond de verre, mais on n'est pas encore dans un pays qui permet, en tout cas, au plus grand nombre d'avoir accès à de la performance de très haut niveau. Voilà, il y a encore des problèmes d'infrastructure, il y a encore, on est dans cette génération 2024 JO qui est en train d'émerger, qui va se construire, et on espère bien entendu que le coup de projecteur des JO vont pouvoir permettre à tout un tas d'athlètes français dans tous les sports de performer au plus haut niveau. Et bien sûr, on soutiendra un joueur de foot américain qui pourrait aller jouer. Voilà, chez les Dolphins, chez les Patriots, chez qui vous voulez. Bon, on prendra n'importe quelle opportunité, je pense.
Clairement, on espère suivre Jeffrey Mbak, quelle que soit l'équipe. Je reviens pour terminer avec toi sur ce qui est l'IFAF. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif immédiat, là, le plus gros projet, quand tu vas raccrocher? Qu'est-ce qui va te mobiliser dans les jours à venir? C'est le flag pour 2028 ou il y a d'autres choses?
Non, il y a d'autres choses. Alors, si on parle de gouvernance immédiate, bien entendu, c'est la reconnaissance permanente auprès du comité olympique. On espère être en mesure de pouvoir passer le cap sur le premier semestre de l'année. Et si on parle d'activité sportive, en 2023, on aura le plus grand cycle de qualification continentale de flag football de l'histoire d'IFAF avec l'Afrique, l'Europe, Asie, Océanie et Amérique. Donc, c'est la première fois. Je pense que la hype, en tout cas, nous sert bien. On est sur la création aussi d'une ligue mondiale, un peu façon 3-3, côté flag football. Et puis, au niveau tackle, on va se diriger vers une Coupe du Monde en 2025. On aurait voulu la faire en 2023, mais l'inflation en Allemagne nous a un peu brûlé. Et puis, on aura le congrès de la Fédération mondiale à Paris, qui aura lieu vraisemblablement fin octobre, début novembre. Voilà, dans laquelle la NFL participe, puisqu'on leur a proposé un siège au board, et puis dans laquelle on espère pouvoir voilà, réunir, en tout cas sur un week-end, un événement peut-être public, sur discuter, voilà, l'internationalisation, le Pro Bowl, le Super Bowl, comment on organise un match, les fans, et ainsi de suite. Donc on espère, en tout cas, avoir un événement sympa. Alors, on sera au milieu des matchs internationaux, donc on sait que les gens seront à Londres et en route vers Munich, donc c'est aussi prévu dans ce sens-là, et peut-être qu'on fera, voilà, on fera un stop à Paris, en tout cas, avant d'avoir un match, on fera un stop à Paris dès cet été.
Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, tu es en train de nous dire que vous préparez une conférence où il y aura Tom Brady, Peyton Manning et tout ça qui viendront donner des conférences de presse en France et qu'on sera là, alors, c'est ça?
On verra selon les matchs internationaux.
C'est vrai, selon les affiches, tu peux en avoir selon les tours.
Voilà, selon les affiches, il est peut-être pas dit que... les Buccaneers reviendront à Munich l'année prochaine. En tout cas, ça s'est très très bien passé pour eux. En tout cas, je peux dire qu'ils étaient super contents, super surpris, même le public allemand, pour le coup, qui était habitué à l'Allianz Arena voir du soccer. Tout le monde a vu les images sur les réseaux avec la musique et tout, c'était top. On verra avec les équipes internationales, mais en tout cas, c'est l'objectif. On est entre Paris et Munich, on est sur la route.
Bon, et puis en plus, je pense que tu n'auras pas beaucoup de mal à les convaincre de venir, parce que quand tu en parles avec certains joueurs dans le vestiaire, notamment quand c'est à Londres, ils aiment bien Paris et ça ne les dérange pas de faire des détours.
Ils sont beaucoup à venir.
Comment ?
Ils sont beaucoup à venir à Paris. Beaucoup,
oui,
plus
c'est
qu'on,
ça.
Qu'on ne le sait.
C'est ça. Nous, on en a quelques-uns qui nous disaient que quand eux n'avaient pas le temps, c'était la famille qui prenait l'Eurostar et qu'elle est à Paris et qu'elle est voir Paris. Donc, je pense qu'on a quand même une belle ville pour les attirer aussi. Donc, vous avez un bel atout là-dessus. Et ben, merci beaucoup, Pierre. Ça donne plein de belles perspectives. C'est hyper intéressant de voir tout ce travail qui se passe en coulisses entre l'IFAF, entre la NFL, du côté de la France aussi, avec tout ce qui se prépare. C'était un grand plaisir de t'avoir. Je vais terminer avec une question de Franz Panther sur le chat, parce qu'on est quand même là à 32 minutes des matchs, et il demande
on est pas loin là, je regarde mon écran.
On est à 32 minutes des matchs, et il demandait qui est ton équipe préférée. On va terminer un peu sur la NFL quand même.
Alors, je parle à connexion, allô.
T'as pas le droit de le dire non plus.
Non, j'ai très le droit de le dire, mais on fait pas une saison de fou. Moi personnellement, je suis un fan des Packers et Green Bay depuis très longtemps, même si mon premier Super Bowl c'était John Elway, Brett Favre, donc voilà, et puis de ma famille. C'est dur cette année. Voilà, c'est dur cette année.
Il y a eu des belles années. En termes de quarterback, vous êtes quand même, ça va.
Là, c'est encore une fois, c'est dur cette année. Je ne pensais pas que le départ de deux joueurs majeurs, et je pense à notamment à Smith et Adams, on aurait pu comme ça changer la physionomie de l'équipe. Maintenant, on a des rookies receveurs là, qui sortent un peu du bois. On est encore dans la chasse pour les playoffs. Mais bon, voilà, c'est difficile. Et ça fait partie des belles histoires cette année à Londres. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller les voir et de rencontrer Murphy, le président du club, et d'avoir voilà, d'avoir une super discussion. C'est un mec super intéressant. Non, moi, voilà, fan des Packers, mais saison difficile.
C'est vrai, c'est vrai. Bon,
Voilà.
il y en a eu quelques belles. C'est vrai que là, des fois, ça fait partie du jeu aussi. Hein,
Ça fait partie du jeu.
mais
On attend que Jeffrey Mbah qui signe à Packers pour avec Rashan Gary pour pouvoir tout éclater.
c'est
Et
ça.
puis et
C'est
puis
ça.
voilà.
Mais c'est vrai que c'était une des équipes les plus attendues. C'est vrai que c'était la dernière à venir en plus cette année, les Packers. C'était la dernière des 32, je crois.
C'était la dernière équipe à venir. Et jusqu'à il y a encore peut-être 2-3 ans, il était impossible d'imaginer les Packers jouer un match international. Hein. C'est la seule équipe qui n'est pas propriété d'actionnaires privés, qui est propriété des fans. Et qui de fait a une économie à domicile qui est assez fantastique. Hein. Je vous invite. D'ailleurs, c'est pour la curiosité, s'il y en a que ça intéresse, c'est la seule équipe qui dépose ses comptes en ligne. Hein. Donc, vous pouvez
Ah,
aller
c'est
voir
vrai.
comment fonctionnent les détails d'une équipe NFL. Et c'est vrai que quand on compare avec le football qu'on connaît, l'économie du football et les Green Bay, Packers de Green Bay, c'est assez fou. Alors que la ville est pas si grande que ça. Et finalement, voilà, vu l'engouement finalement post-Covid du retour des matchs internationaux, ça a été super important pour eux de participer, hein. Je rappelle, hein, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de tes followers, de tes viewers qui ont un petit peu été frustrés, mais le match à Londres, c'était quasiment 600 000 ou 600 000, 700 000
Ah oui, c'est
pré-réservations
énorme à chaque fois.
dans la journée. Donc, voilà, on espère, en tout cas, il y aura un match de plus l'année prochaine du côté de l'Allemagne. Donc, on espère pouvoir avoir aussi un match en France très vite.
Oui, et puis les Packers, c'était dur de les faire bouger parce que je crois que même les équipes en fait qui les reçoivent ne voulaient pas se priver du match où ils reçoivent les Packers parce qu'ils remplissent leur stade en fait avec les supporters des Packers aussi notamment. C'est une
Et
très très bonne équipe à recevoir pour faire du chiffre.
ouais, et puis à Londres, enfin, je veux dire, encore une fois, j'imagine que plusieurs d'entre nous ce soir ont pu voir le match. Le stade était vert et jaune. C'était incroyable. Ça fait partie des belles expériences. Hein. L'année prochaine, on aura Notre-Dame-des-Vies en Irlande. On aura 4 matchs en proximité, Londres et l'Allemagne. Donc, voilà, faut en profiter de tout ça. Et puis, encore une fois, en France, aussi vite que possible, on l'espère.
Eh bien, merci encore, en tout cas, Pierre. Merci de
Merci à
nous
vous.
avoir rejoints et de nous avoir parlé de tout ça. Je vais te dire, on a parlé de chiffres, de fédérations et de formulaires. Eh bien, le compteur des viewers n'a fait qu'augmenter, tu vois. Donc,
Ah,
on peut
bon, ça
parler.
va, c'est que c'est pas trop chiant alors,
Voilà,
ça
on peut parler de formulaire A38 et tout ça, et de politique. Et ça ne fait qu'augmenter le compteur depuis tout à l'heure. On est à plus de 320 personnes,
Ah,
là, sur le.
il faut continuer. Enfin, le message, il est si on veut être un peu franco-français, le message il est quand même relativement simple. Plus on sera nombreux et plus on pourra se rassembler effectivement pour aller écouter des infos, voir des matchs, bien entendu jouer en fantasy, aller jouer au flag. Bien entendu, l'effort est conséquent, mais voilà, on est à ça d'avoir un vrai basculement. Tu as parlé d'un joueur français, on parle de joueurs en France. Voilà, on pourrait jouer notre carte avec l'arrivée des JO. On va bien sûr transformer le paysage sportif. Donc, en tout cas, merci à Téléactu. Super, super boulot depuis 10 ans. Alain, tu le sais, c'est pas la première fois qu'on en discute. Bravo, bravo à tous. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de saison. On arrive quasiment au playoff. Ça va
Ouais,
être.
ça.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ça va être money time.
Ça approche. Eh bien, merci encore, Pierre. Je vais reprendre les mots du chat qui dit merci beaucoup, monsieur le président, parce qu'il faut t'appeler monsieur le président quand même.
Oui, oui, oui. Pierre, ça suffira. Non, merci. Non, il n'y a pas de... Tout va bien, on est à l'aise de ce niveau-là.
Merci encore, Pierre. On te souhaite une très très bonne soirée, un très bon match, du coup,
merci.
Pour ce soir. Merci beaucoup,
Bonne soirée
Pierre.
À tous.
À très bientôt, bye au revoir. Bye.